Dans ce 187e épisode du podcast, je vais vous parler de la culpabilité chez les profs. Je vais vous dire d'où elle vient et ce qu'on peut en faire. Je suis Émilie Lefattan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Depuis maintenant plus de 5 ans de coaching quasiment que de prof, j'ai constaté que certaines émotions et certains sentiments reviennent assez fréquemment dans le discours des profs. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé en 2025 de me former en expertise en intelligence émotionnelle. Donc oui, j'avoue que ça claque, me voilà experte en intelligence émotionnelle, s'il vous plaît. Bon, trêve de plaisanterie. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire un des piliers de mon programme Kiffe ta vie de prof. Et donc parmi ces émotions, il y a une émotion qui revient assez souvent et dans plusieurs situations professionnelles différentes, c'est la culpabilité. Donc dans cet épisode, je vais décrypter ce qu'est cette émotion et essayer de vous donner quelques pistes pour pouvoir prendre du recul si vous êtes en prise à la culpabilité. Donc comme toutes les émotions, la culpabilité, elle est utile et elle n'est pas à nier, à cacher sous le tapis. Elle nous donne une information et l'idée est de se servir de cette information, de l'information que vous apporte cette émotion pour pouvoir ensuite réguler, pour réfléchir, pour l'utiliser, pour éventuellement l'exprimer et voir ce que vous avez envie d'en faire de favorable pour vous. Donc ça va être utile soit pour écouter son message, si vous identifiez ce que vous dit cette culpabilité et que vous êtes d'accord avec ça et que ça vous donne envie de mettre des choses en place, soit pour voir les choses autrement. Et en comprenant ce qu'il y a derrière la culpabilité, eh bien on va pouvoir éventuellement réévaluer nos pensées ou utiliser cette émotion pour pouvoir avancer vers une situation qui nous est plus favorable. Donc oui, les profs se sentent coupables et moi-même, quand j'enseignais, je me suis à de nombreuses reprises sentie coupable. On ressent de la culpabilité quand on ne termine pas quelque chose à temps, on se sent coupable de ne pas assez aider les élèves qui en ont besoin, de ne pas assez être aussi avec les bons élèves, de ne pas avancer aussi vite que les préconisations nous le disent. Et là, petit clin d'œil aux professeurs des écoles de CP qui se sentent en retard dès la troisième semaine, voire avant, parce que il ou elle n'avance pas assez vite sur les graphies enseignées. Bref, on se sent aussi coupable de ne pas avoir décelé assez tôt une difficulté chez un élève, de ne pas réussir à différencier. On se sent coupable de ne pas réussir à faire tout le programme ou de ne pas avoir autant de silence que dans la classe voisine ou de ne pas faire autant de projets que je ne sais qui. Ou d'avoir des copies en retard dans son sac, etc., etc. On peut trouver plein de sujets pour lesquels on culpabilise potentiellement quand on est prof. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas à l'école. On se sent aussi coupable en dehors de l'école de trop travailler ou de ne pas être assez disponible pour ses proches ou de ne pas assez travailler quand on passe du temps avec eux. Enfin, la culpabilité, elle peut être là à plein de moments. En fait, toutes les situations professionnelles des profs sont propices à se sentir coupable et je me dis, en le disant d'ailleurs, que d'entendre cette énumération non exhaustive de tout ce qui vous fait culpabiliser, ben peut-être que ça vous fera un peu sourire et que ça vous fera réaliser que c'est trop pour votre petit cœur et qu'il est important de se délester un petit peu de toute cette culpabilité. Donc on y va et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. La culpabilité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand on se juge soi-même et qu'on estime qu'on a fait une entorse à une règle qui est importante pour nous. Donc C'est pas vraiment une émotion en soi, mais c'est plutôt un mélange de plusieurs émotions. Et c'est intéressant de les identifier, ces différentes émotions, pour pouvoir mieux y remédier. Donc on se sent coupable parce que on a fait ou pas fait quelque chose et que cette action ou non-action, elle va à l'encontre d'une valeur ou d'une idée qu'on se fait ou de quelque chose qui est important pour nous. Donc on s'en veut. Et donc la culpabilité, c'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris et de colère vis-à-vis de soi-même. Donc c'est un mélange de plusieurs émotions pas hyper agréables. Et donc on se sent triste parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, parce qu'il y a une situation qu'on idéalise ou qu'on a idéalisée, qu'on n'a pas atteinte. Et pourquoi je dis idéaliser ? Parce que parfois, voire souvent, on est déçu de ne pas avoir atteint quelque chose qui était en réalité inatteignable, mais qu'on avait idéalisé. Par exemple, vous prévoyez le contenu de 75 minutes de séance pour une séance de 45 minutes qui se trouve juste après la récréation, donc avec 10 minutes de transition, le temps de retrouver le calme, etc. Donc ce n'était pas réaliste parce que vous aviez beaucoup de contenu et le fait d'y avoir cru et de ne pas l'avoir fait, vous allez culpabiliser parce que vous serez déçu. Donc ça, c'est un exemple. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est utile de pouvoir réaliser que ce n'était pas possible dès le départ. Et si vous aimez prévoir plus parce que ça vous rassure, ben peut-être que vous pourriez, dans ces cas-là, prévoir un point d'arrivée minimal et raisonnable qui vous servira d'indicateur de réussite un peu plus réaliste et plus valorisant, et ensuite identifier que le reste c'est du plus. Mais donc tout ça pour dire que dans ce genre de situation, quand on prévoit trop ou quand on se dit qu'on va faire tout ça ou qu'on pourra faire tout ça, qu'on idéalise quelque chose, qu'en fait c'est pas vraiment possible et qu'on y repense, si on n'analyse pas un peu, ben on va se sentir coupable. Parfois, il y a aussi des situations idéales, c'est-à-dire la façon dont ça devrait se passer dans le meilleur des mondes. Donc ça veut dire que ce sont des situations idéales dans le sens où si toutes les conditions sont réunies, s'il n'y a pas d'imprévus, que les planètes sont alignées et que vos élèves sont coopérants, que tout le monde a son matériel, etc., qu'il n'y a pas l'alarme à incendie qui se déclenche, pas d'élèves blessés, pas d'élèves qui se disputent, enfin bref, eh bien c'est faisable. Sauf que c'est assez rare que tout se déroule à 100% comme attendu. Quand on enseigne, l'imprévu, ça fait partie du jeu. Et quand c'est pas le cas, eh bien, quand ça se passe pas comme c'était prévu, parce qu'il y a des imprévus, ben comme c'est habituel et normal, ben, vous n'êtes coupable de rien. Parce que c'est ce dont il est question dans la culpabilité. On se sent coupable de quelque chose, alors que dans la plupart des cas, la plupart du temps, on est innocent. En fait, si on repense à la situation, ben oui, j'avais préparé ça, j'ai pas pu le faire. En fait, de quoi je suis coupable ? Je ne suis pas coupable qu'il ait neigé à ce moment-là, que les élèves aient été surexcités, que machin n'ait pas son matériel. Je ne suis pas coupable de tout ça. Et c'est complètement normal et attendu que tout ne se passe pas comme prévu. Donc, il faut se le rappeler. Et quand on prépare sa classe, quand on ne la prépare pas pour que tout se passe comme sur la préparation. On la prépare pour être prêt à tout ça, et on prépare sa classe parce qu'on sait justement qu'il va se passer des choses inattendues et qu'on essaye de se préparer au mieux à ce qui est prévisible pour pouvoir gérer l'imprévisible. Et on apprend à chaque fois à réajuster, prévoir autrement, à mieux prévoir, mais en fait on sait jamais tout ce qui va se passer. Et donc dans ces cas-là, on peut adopter un état d'esprit de développement et aller chercher l'apprentissage, c'est-à-dire se dire, et j'y reviendrai plus tard, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que je change pour la prochaine fois pour aller plus loin ou rectifier le tir ? Donc parfois, la culpabilité, elle naît de situations dans lesquelles il n'y a en réalité pas lieu de se sentir coupable quand on repense aux choses. Parce qu'on culpabilise par rapport à des situations idéales ou des situations idéalisées. Je vous disais aussi que dans le mix d'émotions qu'il y a derrière la culpabilité, il peut y avoir aussi de la honte, c'est-à-dire qu'on culpabilise par rapport au regard des autres, à ce que l'on s'imagine des pensées des autres, à ce qu'on s'imagine de leurs réactions, de leurs émotions et de leurs jugements. Et ces autres, ben, ce sont parfois les collègues, parfois les parents, parfois la hiérarchie, etc. Parfois, c'est effectif, c'est réel, on a vraiment reçu des commentaires récents ou passés qui nous insécurisent. Et j'ai d'ailleurs déjà fait un épisode sur les petites phrases en apparence anodines qu'on entend parfois entre collègues, mais qui peuvent en réalité se révéler être des phrases assassines. Et ces remarques, elles peuvent aussi parfois provenir des parents ou d'autres personnes qui gravitent autour de nous professionnellement et qui peuvent semer le doute ou venir amplifier un doute qui était déjà là ou des pensées qui étaient déjà là. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est de prendre le temps de décrypter ce qui se passe. Ce que vous disent les autres, c'est un avis qui traduit leur vision des choses. Parfois c'est par méconnaissance. Parfois, c'est par non-conscience de ce qui se passe réellement ou ce qui se passe pour vous. Parfois, c'est de façon mal exprimée. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant et d'utile dans ce que la personne dit, mais c'est mal dit, c'est mal exprimé. Et parfois, c'est nous qui le comprenons mal. Et c'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose que c'est forcément vrai, ni que c'est forcément faux. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser ce qu'il y a derrière votre sentiment de culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable à ce moment-là, pour pouvoir ensuite décider de ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que une fois que vous avez identifié pourquoi vous vous sentez coupable, vous allez pouvoir vous dire que peut-être vous êtes d'accord avec cette remarque, avec ce reproche, avec ce commentaire, et dans ce cas, ben, ça va vous permettre de vous demander comment vous pouvez améliorer les choses. Ou bien, parfois, en y réfléchissant bien, vous allez décider de ne pas accorder trop de crédit à cette remarque, parce que vous allez vous dire que de là où vous parle cette personne, ce n'est pas pertinent. Parfois, on imagine aussi à tort que les autres nous jugeraient parce qu'en réalité, ils sont souvent dans les mêmes situations que nous. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on va faire telle chose et que les collègues vont nous juger, mais en fait, les collègues, ils vivent la même chose que nous, ils sont peut-être aussi dans le doute, ils ont peut-être les mêmes interrogations. Et parfois, on a peur de ne pas convenir aux attentes aussi. On a peur de ne pas être conforme à ce que l'institution attend de nous, à ce que les collègues attendent de nous, à ce que le métier voudrait qu'on fasse, etc. Et dans ces cas-là, eh bien, quand on culpabilise, on peut parfois interroger quelles sont les attentes réelles. Est-ce qu'on n'est pas en train de surinterpréter ou de surévaluer les attentes? Et je connais personne de lucide, pas d'enseignant lucide en tout cas, qui reprocherait à un ou une autre collègue de ne pas finir le programme haut la main. Parce que quand on est lucide, on sait très bien que c'est compliqué, que ça rentre pas, et que si ça rentre, ben c'est au détriment de la qualité sur certaines parties ou de la compréhension des élèves à certains endroits. Donc il n'y a pas à culpabiliser de ne pas réussir à faire le programme, parce que en fait, si on réussit à le faire, comme je viens de le dire, c'est au prix de certains sacrifices et de certains choix. Parmi les situations où les profs culpabilisent, il y a aussi des situations où on culpabilise de ne pas amener les élèves là où on voudrait les amener. Cette culpabilité-là, elle nous montre que c'est important pour nous de faire progresser les élèves et qu'on a un idéal, qu'on a une vision pour eux. Mais elle nous demande aussi de réinterroger notre responsabilité dans la réussite et par rapport aux difficultés des élèves. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres non. Et il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Quand on n'arrive pas à emmener les élèves jusqu'à là où on aurait aimé les emmener, ben il y a parfois, souvent, des raisons sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Donc il n'y a pas à culpabiliser puisque ça ne dépend pas de vous. Et donc l'idée, c'est de faire de son mieux. Améliorer ce qu'on peut raisonnablement améliorer. Continuer de réfléchir. Et continuer de réfléchir sur ce qui est dans votre champ de contrôle. Mais pallier les difficultés de tous les élèves, Ben ça, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas toujours possible et c'est rarement possible. Et il y a certaines difficultés sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. En tout cas, vous ne pourrez pas les résoudre à votre niveau. Vous pourrez contribuer à faire avec ou à les dépasser ou à sur certaines, etc. Mais pas tout. Et n'oublions pas aussi que nous ne sommes pas seuls, les seuls adultes, à contribuer à la réussite et à la progression des élèves. Vous êtes juste un prof dans un parcours. Il y en a eu avant, ou sauf si vous êtes en petite section, mais sinon il y en aura après. Et tout ça contribue à faire progresser les élèves. Donc tout ne repose pas sur vos épaules. Comme je vous disais que la culpabilité, c'est en lien avec le regard que nous portons sur nous-mêmes, il me semble aussi important de vous évoquer les situations où on peut interroger cette culpabilité et réévaluer notre culpabilité, revoir un peu les critères et se rendre compte que nous ne sommes coupables de rien. Le contraire de coupable, c'est innocent. Et dans bien des situations, se demander si on est coupable ou innocent, eh bien, ça permet de relativiser. Dans certains cas, on est vraiment coupable de quelque chose. Vraiment, on a fait quelque chose qui n'est pas convenable, quelle que soit la raison. Et l'idée n'est pas de nier ces situations, mais de pouvoir les repérer dans le lot de situations où nous sommes innocentes. Et dans ces cas-là, eh bien, la culpabilité, elle est utile parce que c'est une émotion, un sentiment qui va nous inviter à réparer. Quand on se sent coupable, c'est une invitation à réparer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire et qui va pouvoir nous mettre en action face à ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Ben, voir si on peut aller réparer. Et quand on peut aller réparer, eh ben, ça n'enlève pas ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Mais par contre, ben, ça le répare ou on peut avancer, on arrête de se sentir coupable et de ruminer cette culpabilité. Je me souviens d'une fois où en fin de journée, j'étais fatiguée par un élève qui avait été pénible toute la journée et je lui ai dit quelque chose d'hyper cinglant. Je me souviens pas ce que c'était, mais je me souviens que c'était suffisamment cinglant pour que même moi, quand je le dise, je me dise « Oh waouh !» Et j'ai vu son étonnement en fait dans son regard. Au moment où je l'ai dit, je m'en suis voulu tout de suite. Je m'en suis voulu parce que je me suis vu dire et je m'en suis voulu parce que j'ai vu sa tête étonnée que je lui dise ce genre de choses. Et du coup, j'y ai pensé toute la soirée, toute la nuit. Et je me disais que ben, quoi que cet élève avait fait, ça ne méritait pas une telle remarque, en plus devant tout le monde. Soit ça l'avait calmé, mais franchement, j'étais pas du tout fière de ça parce que ça correspondait pas du tout à ma vision de la bienveillance et de la posture que je veux adopter vis-à-vis des élèves, etc. Je voulais pas être cet adulte qui se permet de dire des choses aux élèves et qui diminue l'estime de soi des élèves, etc. Et donc je ruminais et je m'imaginais déjà cet élève à 40 ans se souvenir de cette remarque blessante et raconter qu'il a eu une enseignante jadis qui lui avait dit telle chose et que ça l'avait marqué à vie, etc. Bref. Donc, ben, ce que j'ai fait, et ça, je vous raconte ça parce que je veux illustrer le fait qu'on peut réparer, ben, le lendemain ou après le week-end, je sais plus quel jour c'était, ben, je suis retournée voir cet élève parce que dans ma vision du monde, les adultes s'excusent auprès des enfants quand ils font quelque chose qu'ils n'ont pas à faire. Donc, je lui ai dit, ben, tu sais, hier, je suis vraiment désolée de t'avoir dit telle chose. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'élève a été hyper étonné d'entendre mes excuses. Il m'a dit, mais ah non, mais c'est gentil de s'excuser, mais j'y pensais même plus, c'est pas grave du tout. Et bref, en tout cas, j'ai insisté, j'ai dit, si, c'est important parce que même si t'avais fait telle ou telle chose, j'avais pas à te dire ça et on n'a pas à te dire ça. Donc vraiment, je suis désolée et je regrette ce que j'ai dit. Et en fait, déjà, ça a contribué, je pense, à renforcer le lien avec cet élève. Qui a été très surpris qu'on s'excuse vis-à-vis de lui et qui était peut-être, parce qu'il était un peu pénible régulièrement, habitué à entendre des propos de ce genre ou en tout cas des reproches. Donc lui, il avait classé ça dans « je mérite ces reproches-là ». Et en fait, j'ai eu besoin de réparer et je suis contente d'avoir réparé ça. Donc si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a des cas où la culpabilité, ben, elle est là. On est des humains aussi, rappelez-vous. On a le droit de faire des erreurs, on n'est pas parfait. Ça arrive de s'énerver, ça arrive de dire des choses qui dépassent notre pensée, etc. Ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes pour autant. Mais ben, on peut réparer. On peut réparer en allant s'excuser vis-à-vis des élèves, mais ça peut être aussi vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des parents, etc. En préparant cet épisode, j'avais mis sur les réseaux sociaux une petite question en story, enfin une boîte à questions pour que vous puissiez me poser des questions sur la culpabilité si ça vous intéressait. Et il y a une auditrice qui m'a posé la question suivante, qui m'a dit, mais comment ne pas culpabiliser de ne pas réussir à faire ce qu'on sait qu'il faut faire? Donc là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée de idéaliser peut-être ce qu'on est censé faire ou d'avoir un idéal. Et il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Donc, parfois, on culpabilise parce qu'on ne remet pas en question les injonctions de la société ou les représentations qu'on a. Et d'ailleurs, il y a Nietzsche qui disait que la grande majorité de la culpabilité qu'on ressent est liée à tous les codes qui nous sont imposés. Et donc là, l'idée, c'est de questionner ce qu'on sait qu'il faudrait faire. Là, ce qu'on sait qu'il faudrait faire. Et se demander si il ne pourrait pas y avoir une autre façon de faire. Ou est-ce qu'on ne peut pas être ou faire autrement? S'il n'y a pas d'autres façons de faire qui sont tout aussi valables, il n'y a pas qu'une façon, on s'imagine qu'il faudrait faire comme ça, eh bien peut-être qu'on peut se dire, bah, comment je peux faire autrement? Est-ce que j'ai le droit de faire autrement et que ça fonctionne aussi? Il n'y a pas qu'une façon de faire. Ce qu'on peut aussi faire, c'est aller questionner la vraie responsabilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on n'a pas tendance à endosser une responsabilité qui ne nous incombe pas vraiment ou seulement partiellement? Donc, en gros, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi dans cette histoire? Est-ce que j'avais vraiment la main sur tous les facteurs? Est-ce que c'est de ma faute si telle ou telle chose a pris plus de temps prévu, ou si un tel ou une telle ne m'a pas donné telle information, ou si tel élève rencontre des difficultés, ou si... Bref, voilà. Donc est-ce que c'est vraiment de ma faute si les choses se sont passées comme ça? Et donc en fait, se dire, je fais de mon mieux, et là concrètement, ben, en fait, j'ai fait de mon mieux. Et ça me fait penser aux accords Toltec, dont j'ai parlé dans un vieil épisode du podcast, c'était l'épisode 17, un de mes tout premiers épisodes, et qui est d'ailleurs resté longtemps l'épisode le plus écouté du podcast à mon grand étonnement, et je pense que c'est à cause des mots-clés et des recherches. Mais c'est un épisode qui a été beaucoup écouté, que je n'ai pas réécouté depuis très longtemps. Donc voilà, se rappeler que tout ne dépend pas de vous, qu'est-ce qui dépend de vous, et est-ce que vous avez fait de votre mieux? Déjà, ça peut être une piste. Une autre piste pour répondre à cette question, donc la question comment ne pas culpabiliser quand on sait qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait fallu faire. Donc c'est quand on se dit qu'on n'a pas pu faire ce qui aurait dû être fait, peut-être que on peut essayer de ne pas se focaliser sur la perte de ce que nous n'avons pas fait, mais plutôt sur essayer de trouver le gain que ça a généré, c'est-à-dire imaginez les choses, que les choses elles ont un aspect négatif, mais que ben, en négatif, enfin, y a aussi un aspect positif. Et on peut aller voir ce que ben, cette perte a pu permettre côté gain. Par exemple, si vous avez culpabilisé de ne pas avoir bien préparé votre séance de science, ok, bon, vous ne l'avez pas bien préparé comme vous voudriez, mais peut-être qu'il y a un gain. Grâce à ça. Peut-être que le gain, c'est que vous avez réussi à bien corriger votre paquet de copies en retard, peut-être que vous avez réussi, que ça vous a permis de prendre le temps dont vous avez besoin pour faire une sieste, vous reposer ou que sais-je, ou que vous avez eu le temps de vous occuper de votre chat, vos enfants, votre voisine, enfin voilà. Donc, vous culpabilisez de ne pas avoir bien préparé un truc comme il le faudrait, ok, mais n'oubliez pas de regarder qu'est-ce que ça a permis à la place. Si vous culpabilisez de ne pas avoir avancé dans votre progression, ok, peut-être que vous n'avez pas avancé comme c'était prévu. Bon, déjà, peut-être que la progression était idéalisée et inatteignable, ça c'est une première chose, mais peut-être que c'est aussi parce que ben, le gain, c'est que vous avez pris le temps de construire une relation de qualité avec vos élèves, ou peut-être que vous vous êtes assuré que les élèves maîtrisent bien les bases et que vous avez passé plus de temps sur un chapitre important ou une partie importante, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire que quand on culpabilise, on se focalise sur ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on aurait dû faire autrement, mais on oublie de regarder ce que ça a permis et ce qu'on a fait à la place ou ce qu'on a mis en place, etc. Donc ça demande un peu de flexibilité mentale, mais la piste ici, c'est d'orienter son regard sur autre chose, sur le gain, sur le positif, sur ce que ça a permis, même si ça n'enlève pas la perte. Et puis le gain, parfois, ça peut être aussi ce que vous avez appris de la situation, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ok, ce que vous aviez fait, c'est pas ouf, c'est pas top, vous auriez aimé faire autrement, c'est pas ce qui était attendu, vous êtes déçu, etc. D'accord, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je fais de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois, pour faire mieux l'année prochaine, pour faire mieux la semaine prochaine, pour faire mieux demain? Et ça aussi, c'est une manière d'orienter l'attention sur le gain. C'était pas foufou, mais ça m'apprend quelque chose, et du coup, la prochaine fois, ça se reproduira pas comme ça. Voilà. Une autre question qui m'a été posée dans la boîte à questions, c'est: est-ce qu'on peut se débarrasser de la culpabilité? En vrai, je sais pas. Je ne sais pas si on peut se débarrasser de la culpabilité, en tout cas d'emblée comme ça, de manière définitive. Et du coup, je pense pas que ce soit l'objectif de ne plus ressentir de culpabilité jamais, puisque ce que je vous disais, c'est qu'elle a une utilité, elle nous apporte une information, cette culpabilité, qu'elle est à questionner pour pouvoir faire quelque chose, en faire quelque chose. Et personnellement, moi, la culpabilité, c'est une des émotions que je ressens le plus. Je me sens coupable de tout le temps. Mais j'ai arrêté de penser que je pourrais un jour ne plus ressentir cette culpabilité. Par contre, en développant mes compétences émotionnelles, j'ai appris à identifier la culpabilité, à la questionner, à la comprendre, à pouvoir éventuellement l'exprimer, la réguler et à l'utiliser pour quelque chose qui me soit favorable, pour avancer dans la vie, avancer de manière constructive, progresser, me développer, faire autrement, etc. Donc c'est pas, bien sûr que c'est pas agréable de se sentir coupable, mais par contre c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas gommer les émotions, c'est vraiment savoir faire avec d'une façon qui nous sera favorable et qui nous fera avancer. C'est d'une façon qui nous permettra de nous développer. Donc c'est vrai que intelligence émotionnelle, ça pourrait laisser entendre comme s'il y a une bêtise émotionnelle, c'est pas du tout ça, c'est intelligence dans le sens le faire de façon utile, constructive, bénéfique pour pouvoir avancer et se développer. Et donc c'est pour ça que, comme je vous le disais en introduction, que je me suis formée à l'aide. Et donc c'est pour ça, comme je vous le disais en introduction, que ça m'a semblé important et nécessaire pour accompagner et pour accompagner des profs notamment, de me former en intelligence émotionnelle, et que j'en ai fait que c'est un des piliers de l'accompagnement Kiffe ta vie de prof. Donc, je vais terminer comme ça. Si ça vous intéresse d'aller creuser ça et de découvrir un petit peu d'intelligence émotionnelle, le programme Kiffe ta vie de prof est ouvert aux inscriptions pour la deuxième session là, jusqu'au 20 janvier prochain. La session suivante, elle aura lieu en août. Et vous pouvez, si vous préférez, même maintenant, faire le choix de suivre ce programme, mais avec un accompagnement individuel, avec des séances de coaching en tête-à-tête avec moi. Ça, c'est une autre option possible. Voilà. J'espère que cet épisode sur la culpabilité vous aura un peu éclairé sur ce que c'est que cette culpabilité, et surtout que ça vous aura aidé à prendre un peu de distance et que ça vous aura donné des pistes pour sortir de cette culpabilité. Et n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux ou sur le site ou sur Spotify, et à venir et à m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos réactions, que je lis tout le temps avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mes trucs de prof. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes deux livres, Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil. Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof, avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur mestrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.